Autant je pense que la science est pour nous nécessaire, parce que d'abord on dépense beaucoup d'argent pour faire des choses, donc il faut quand même les faire de façon raisonnée, si possible. Autant on doit garder cette liberté d'interprétation du monde qui nous entoure, des images. Bon, on sait qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, nous on en voit à peu près 7000 à l'œil nu, quelque chose comme ça. Et on a déjà l'idée de l'infini, alors que c'est très petit en fait. Hein. Et puis voilà, donc il faut garder cette poésie. Moi je suis pour qu'on ne mélange pas les deux, qu'on ne confonde pas les deux. On peut les mélanger de temps en temps pour s'amuser, pour faire des prestations artistiques diverses et variées. Mais je crois qu'il faut garder cette interprétation libre, humaine des choses et poétique.
Bonjour, avec la complicité de Daniel Wörling, président de la Société d'astronomie de Nantes, nous accompagnons dans la rue Michel Vizeau, responsable du programme Exobiologie au CNES.
Les grandes étapes, qu'est-ce que c'est ? Les grandes étapes, donc, on va rester dans le récent, hein, c'est premièrement l'exploration de Mars par des sondes qui l'entouraient, qui le tournaient autour, donc des satellites martiens. Ensuite, ça a été l'atterrissage martien. Ça a été la capacité de l'homme à explorer le système solaire, et maintenant il explore tous les corps du système solaire, même les plus éloignés, les plus étranges. Et ça prend du temps, parce que ça prend beaucoup d'argent, et que l'argent, c'est parce qu'il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup de travail réel, technique, il faut beaucoup de travail et de recherche purement intellectuelle pour être capable de mettre au point des instruments qui maintenant nous apporteront les informations. La grande découverte, ça a été les planètes extrasolaires, puisqu'on est tout à fait dans la recherche des planètes extrasolaires. Donc c'est 1995, les travaux de Michel Mayor et de Didier Queloz de l'Observatoire de Genève, qui, à Nice, avec un petit télescope, ont découvert et montré la première exoplanète. Donc c'est à 20 ans, c'est juste il y a 20 ans. Donc c'est pas... Et ça, c'était vraiment une rupture. Donc depuis, ça a généré deux très grosses missions spatiales. Ça génère deux nouvelles missions spatiales qui vont être lancées dans les années qui viennent, TESS, et puis même le James Webb télescope qui sera lancé en 2018 à partir de Kourou avec une fusée Ariane 5. C'est un télescope international, très américain, très cher, un très très beau, très bon instrument. Et donc ça a été vraiment la rupture, je dirais, des 20 dernières années, enfin des 50 dernières années, en dehors du spatial, le fait d'aller dans l'espace. Ça a été vraiment la découverte des planètes extrasolaires, la preuve de l'existence des planètes extrasolaires avec la découverte de la première planète. Après, ce qui nous reste à faire, c'est trouver les moyens d'analyser la lumière que pourraient nous apporter les planètes extrasolaires. Et donc il faut qu'on invente les télescopes, les méthodes, les techniques pour pouvoir analyser ces lumières. Et notamment avec une grande sensibilité, parce que si on cherche des traces un jour, des traces d'une vie, d'une forme de vie extraterrestre qui aurait modifié l'atmosphère de sa planète, il faudra forcément qu'on aille chercher des produits qui sont en quantité infinitésimale dans ces atmosphères-là, et donc il faut une très grande sensibilité des spectromètres. Et là, on se heurte aux lois de la physique. Donc il va falloir trouver des astuces pour les utiliser et augmenter nos capacités qui sont pour l'instant très limitées dans ce domaine.
Mais on n'a pas encore détecté de la vie.
Alors on a détecté aucune autre forme de vie sur quelques planètes que ce soit ou sur quelques corps célestes que ce soit. C'est à la grande interrogation, et c'est une interrogation du moins scientifique, importante. Parce que, si on trouve de la vie sur Mars, sur la planète voisine, et qu'on montre que cette vie est indépendante de la vie terrestre, et que la vie terrestre est indépendante de la vie martienne, si on en trouve, c'est comme un billet de 500 euros, si on en trouve sous les pieds, c'est qu'il y en a partout. On a plus de chances quand même de trouver des pièces d'un centime d'euro que des billets de 500 euros. Donc, si on en trouve juste à côté, ça veut dire qu'il y en a partout dans l'univers, donc enfin, au moins dans notre galaxie. Et quand on cherche dans notre galaxie, dans une petite portion de notre galaxie. Hein. Il faut voir qu'on a exploré actuellement, les moyens d'exploration d'exploration par télescope, hein, pas avec des engins, mais avec des télescopes. Donc on peut voir, pour détecter des planètes, à peu près 1 millième du volume de la galaxie. Et dans le siècle qui vient, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. On ne peut connaître à ce niveau de détail qu'une partie infime de notre environnement galactique. Et donc, il faudra travailler beaucoup pour aller encore plus loin.
Qu'est-ce qui pourrait affirmer qu'au fond, ces recherches sont vaines et qu'on est en train de gaspiller notre argent ?
Le problème de la science, c'est qu'elle ne peut prouver que des choses positives. Je ne peux pas prouver que quelque chose n'existe pas ou n'existera jamais, etc. Donc là, après, on rentre dans la meilleure estimée de nos capacités. C'est pour ça que la recherche de la vie et la démarche scientifique qu'il y a autour de l'exobiologie, donc de la recherche de cette vie, elle n'est pas isolée de l'astronomie, elle n'est pas isolée de la planétologie. Et ce que l'on fait nous alimente ces disciplines. Et ce que l'on découvre pour ces disciplines alimente aussi la façon dont on va nous rechercher éventuellement les traces d'une forme de vie quelque part. Et l'exemple type, c'est la recherche autour de Mars. Hein. Mars est intéressant sur le plan planétologique. Il y a des missions qui partent actuellement. Non, il y en a deux cette année qui vont partir autour de Mars, qui sont des missions de planétologie pour étudier soit les séismes, le cœur de Mars avec InSight. Donc il partira. Les deux missions partent au mois de mars, pour Mars, cette année, en 2016. C'est une mission de la NASA avec des instruments français. Et il y a une mission de l'Agence spatiale européenne, ExoMars, qui va envoyer un satellite qui va ausculter l'atmosphère martienne à la recherche justement de traces que pourrait laisser une forme de vie éventuelle sur Mars. Donc on est tout à fait dans l'actualité, hein. C'est des choses qui se font. Quand est-ce qu'on en fera trop ? Eh bien, je pense que c'est à un moment donné, on trouvera d'autres intérêts en disant ben, on a quand même bien exploré, il y a très très peu de chances qu'on aille plus loin. Nos instruments n'ont pas la sensibilité suffisante pour aller plus loin, donc on va s'intéresser à autre chose. Mais ça, ce sont des décisions politiques au vrai sens du terme et au bon sens du terme. Des scientifiques qui seront intéressés, il y en aura toujours. Mais regardez, la Lune a toujours un intérêt scientifique, mais il est beaucoup moindre que d'autres corps célestes, et donc on s'intéresse quand même relativement peu à la Lune. Je pense que pour l'exobiologie, et ses cibles, hein, que sont Mars, Encélade, Titan, Europe, eh bien, l'intérêt un jour décroîtra parce qu'il y aura quelque chose qui aura plus d'intérêt que ça si jamais on ne trouve rien dessus.
Exobiologie, ça vous évoque quoi ?
Exobiologie extraterrestre, on va dire,
voilà,
c'est ça ?
Ah voilà,
d'accord. Il y a de la vie en Mars, voilà. C'est ça. Bon. C'est ça la question, il y a des bactéries ouais. En Mars.
Il existe une source de vie sur Terre, hors de Terre plutôt.
Non, j'ai pas entendu.
Exobiologie.
Astrobiologie, alors, est-ce que ça inspire plus ?
La vie extraterrestre.
Ah oui, là, oui, d'accord. Vous y croyez aux extraterrestres ? Extraterrestre ?
Alors, est-ce que je crois à une vie extraterrestre ? Là, on est forcément dans l'intime conviction. On n'est plus forcément dans la science, puisque on n'a pas d'éléments pour l'instant qui montrent qu'il existe une forme de vie extraterrestre quelque part. Je pense qu'il est possible qu'il existe une forme de vie extraterrestre quelque part dans notre galaxie, sous forme de plutôt de micro-organismes. Voilà. J'ai des raisons assez scientifiques de penser qu'on ne peut pas avoir des formes manufacturières ou intelligentes, etc., ou qui seraient le fruit d'un hasard qui est tellement improbable que je n'ai pas de raison d'y croire. Par contre, la vie, des formes de vie, sous forme de micro-organismes, ça me semble tout à fait possible parce que dans l'ensemble de la galaxie, se produisent des réactions chimiques dans les nuages moléculaires, etc., autour des soleils, qui amènent sur les corps célestes des produits qui sont identiques à ceux que la vie utilise. Des acides aminés, donc ce qui fait la chair, la viande, les protéines, des sucres, des éléments qui font le code génétique, dont on parle beaucoup, ce qu'on appelle des bases azotées, du phosphate, etc. Donc tous les ingrédients peuvent se produire n'importe où. Donc, il n'est pas impossible que sur le grand nombre de planètes extrasolaires qui doivent exister dans la galaxie, il y a des gens qui disent 17 milliards, 100 milliards, j'en sais rien, enfin des milliards, qu'à un moment donné, ce que l'on appelle la vie ait pu apparaître sous forme de faire plus de soi-même par soi-même. Sur le modo, quand on est petit, on grandit, quand on est vieux, on grossit. Faire plus de soi-même par soi-même.
Michel Vizeau a été candidat cosmonaute.
Vous avez été candidat à quel âge ?
J'ai été candidat, donc j'avais 34 ans. Et
je... Un Français en ce moment qui est candidat, non ?
Alors non, il est plus que candidat, puisqu'il est sélectionné pour un vol à l'Agence spatiale européenne. Il s'appelle Thomas Pesquet, c'est un homme très sympathique.
L'année prochaine.
En décembre de l'année prochaine, oui, il part. Donc on va en parler beaucoup. Vous voyez, donc le spatial comme existe, hein, vous me rassurez quand même.
Donc il faut une condition physique, c'est pas une question d'âge.
Il y a une question d'âge, il faut simplement être... Il y a deux choses, il faut être d'abord normal partout, ce qui est en soi exceptionnel. Donc voilà, le principe de la sélection, c'est qu'on vous examine par tous les bouts, par tous les trous, et à la fin on vous dit, vous êtes normal. Voilà, donc... et c'est assez rare en fait d'être à peu près normal partout.
Ah oui.
Il faut
avoir un cursus aussi qui correspond, non ?
Il faut avoir un cursus professionnel. Il faut quand même, actuellement, on sélectionne essentiellement des gens qui sont issus du supérieur, pour simplifier. Mais Thomas Pesquet, c'est un ingénieur qui était pilote de ligne chez Air France. Donc, bon, enfin, c'est pas mauvais, hein, mais, c'est pas un prix Nobel, quoi. C'est quand même des gens. Il faut être normal. Normal, avoir la tête bien faite aussi. Il faut être un honnête homme au sens du 18e siècle. Il faut avoir des connaissances. Donc voilà. Et puis surtout, les cosmonautes, c'est un investissement sur la durée. C'est-à-dire que quand on sélectionne un cosmonaute, on sait qu'il va être en attente ou actif pendant une quinzaine d'années. Et donc, il va coûter de l'argent pendant ce temps-là. Et donc, il faut qu'au bout de 15 ans, ils soient encore opérationnels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils présentent des facteurs de risque importants. C'est ça, le problème.
C'est-à-dire qu'il faut être candidat et pas être sélectionné, en fait, pour partir.
Alors, ça dépend des cas. Moi, je suis dans un cas particulier. C'est-à-dire que je travaillais sur un des projets spatiaux qui devait voler jusqu'au moment où la politique spatiale a fait qu'on a décidé d'arrêter ces projets spatiaux. Donc, quand on arrête les projets et qu'on est sur un projet, voilà, c'est... Ça s'arrête. Et ça dure 10 ans ou 15 ans. Hein. Et puis à la fin, on vous dit, non.
Vous avez arrêté au dernier moment, comme ça, un projet ?
Tant qu'on n'est pas parti, on n'est jamais sûr de partir.
C'est question budgétaire ? Non, pas forcément.
Je fais du tennis, là. Reposez votre question.
Quand je demandais, c'était une question budgétaire pour le cas, enfin, dans le cas où on arrête, comme vous, un projet.
Non, on peut arrêter des projets pour de nombreuses raisons. Le budget en est une, mais c'est simplement parce qu'à un moment donné, vous savez, les budgets se développent sur 10, 15, 20 ans. Au bout de 10 ans, on peut estimer que ce projet n'a plus d'intérêt et qu'il y a d'autres projets qui ont plus d'intérêt. Et dans mon cas particulier, ce qui s'est passé, c'est qu'on travaillait sur des projets de recherche spatiale et on a estimé qu'à ce moment-là, il était plus intéressant de faire la Station spatiale internationale plutôt que de poursuivre des projets individuels. Donc on a arrêté ce projet. À un moment, on ne peut pas non plus faire croître les budgets de façon exponentielle. Et donc, évidemment, à un moment donné, il n'y a plus d'argent pour faire les deux. Donc, on fait que ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est de faire la Station spatiale internationale sur laquelle va aller Thomas Pesquet. Donc, mon sacrifice terrible a au moins servi à ça.
Quand on mesure à peu près 2 mètres, on rentre dans la catégorie normale.
Alors.
Est-ce qu'on peut encore être candidat, quoi ?
Je dirais que tant qu'on travaillera avec les Soyouz, les capsules Soyouz russes, non, parce que le maximum, je crois que c'est 1,89 m.
Discrimination.
Et vous, ça vous brancherait de partir ?
Ouais, moi j'aimerais bien.
Ouais, pour plusieurs années d'affilée ? Parce que, par exemple, pour aller sur Mars, c'est un voyage de plus d'un an, non ? Pour aller sur Mars.
Alors, une mission martienne durerait actuellement, dans les schémas qui sont actuellement proposés, autour de 3 ans. À peu près, donc un an aller, un an sur place, un an pour revenir. Et il y a des obligations qui sont liées à la conjonction des planètes, au trajet lui-même.
Ah oui.
On peut toujours partir plus tôt, mais on fait 2 fois le tour du Soleil, mais le temps de voyage dure le même. Parfois, il est même plus long. Donc ça, c'est une chose. Mais le voyage martien est une hypothèse qui va être difficile à faire. Mais actuellement, les gens attendent très longtemps pour faire des vols d'une semaine, de 10 jours, de 3 mois ou de 6 mois.
Nous accompagnons dans la rue Michel Vizeau, responsable du programme Exobiologie OCNES.
un réel intérêt à aller sur Mars ? Ou c'est purement scientifique ? Parce qu'on est allé sur la Lune, mais c'était plus un exploit technologique que...
Ça faisait partie de la guerre froide.
Ouais, ça faisait partie de la guerre froide, en plus, ouais. C'était plus un conflit.
Alors, les États-Unis et l'Union soviétique ont mobilisé des sommes énormes pour aller sur la Lune, pour être les premiers, dans un contexte de compétition. C'était un moyen de montrer ses muscles, en sachant que quand on fait une mission extrêmement difficile, on montre une capacité technologique. Actuellement, il n'y a pas de compétition suffisante pour justifier les centaines de milliards de dollars ou d'euros, ou de ce que vous voulez, à mettre dans une aventure de ce type-là. C'est la raison pour laquelle des gens en parlent, mais elle n'est pas ancrée dans un projet de façon ferme. L'intérêt d'aller sur Mars est d'abord l'idée de la nouvelle frontière. On va là où l'homme... C'est un peu... où l'homme n'est jamais allé. Et c'est pratiquement le dernier endroit que l'homme peut espérer explorer physiquement dans notre système solaire. Après, on sort de l'imaginable, je dirais. C'est pas parce que c'est possible qu'on va le faire, mais voilà, ça peut être comme la Station Spatiale Internationale. À un moment donné, c'est devenu le dénominateur commun d'un certain nombre de pays qui avaient un intérêt politique à le faire. Et donc, on a fait la Station Spatiale Internationale, qui est le plus gros instrument qu'on ait construit, qui était collectivement construit par les deux tiers, je dirais, du monde, hein, puisque les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe. Donc, c'est déjà une partie importante du monde, mais même s'il y a quand même beaucoup d'exclus de cela. La Chine a la volonté de faire quelque chose. Elle fait une station spatiale qui sera lancée probablement l'année prochaine ou l'année d'après, avec une occupation permanente. Probablement qu'à un moment donné, pour des raisons politiques, on va essayer de joindre les deux projets, et on va reprolonger, etc., etc. Le spatial, c'est d'abord une aventure politique, au bon sens du terme. D'ailleurs, politique n'est pas un gros mot, c'est loin de là. Et donc, c'est à un moment l'expression d'une volonté collective, hein, qui s'exprime par les gouvernements, de faire quelque chose qui transcende le quotidien. Parce que dès qu'on parle de spatial, dans le terme exploration, je ne parle pas de l'utilisation, mais de l'exploration, transcende le quotidien et ça mobilise des rêves, des intelligences, du travail. Et ce qui coûte cher dans le spatial, ce n'est que de la matière grise. Hein.
On nous promet une espérance de vie de 1000 ans, donc ça va repousser les frontières, non ?
Je connais les transhumanistes un peu, j'ai des légers doutes sur l'intérêt de la chose. Parce que, pour moi, en tant que biologiste, la vie se définit par la mort. Et voilà, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie, c'est simplement. Et du moins dans les organismes supérieurs, parce que les bactéries, elles ne meurent pas, elles y vivent sans cesse, donc elles ne meurent jamais. Je ne vois pas l'intérêt, dans les sociétés humaines actuelles, où l'ennui est quand même un des facteurs premiers. Le faire 900 ans de plus ou 950 ans de plus, on ne voit pas très bien l'intérêt, si ce n'est des fantasmes de puissance ou des rêves d'absolu qui n'ont strictement aucun sens sur le plan humain ou social actuel.
Merci beaucoup pour ce petit moment partagé.
Merci à vous.
On a des contraintes, alors sinon on serait resté. C'était sympa.
Des gens d'autres planètes qui seraient venus sur Terre, par exemple.
Non, c'est pas probable. C'est peu probable. Après, on n'en sait rien.
On ne parle pas des choses comme ça tous les jours, surtout là.
Oui, on n'aurait pas parlé de ça ce soir.
Non, c'est pas du tout.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'on rencontre des gens extrêmement différents et avec des motivations et des approches, des idées, des expressions tout à fait différentes sur des sujets qui sont scientifiquement bornés ou bordés. Bornés, c'est pas le terme, mais bordés. C'est-à-dire que quand on parle science, après, chacun accroche dessus une note fantasmique, poétique, de rêve. Et c'est ce qui est intéressant. Dans la plupart des cas, j'essaye d'alimenter ce rêve par des faits. C'est-à-dire pour que les gens ensuite puissent justement avoir une base solide, enfin une base réelle sur laquelle après, ils ont la liberté de laisser libre cours à leur esprit vagabond.
quelle est la part, bon, je vais le dire comme ça, mais de bluff dans les arguments pour se faire financer ce type de recherche, dans la mesure où on n'a pas encore trouvé de la vie extraterrestre?
C'est pas comme ça, c'est pas dans ces termes-là que cela se pose. Premièrement, l'exobiologie, elle ne fait pas que chercher la vie extraterrestre. Elle cherche aussi à comprendre comment la vie a pu émerger sur Terre. Et avec deux questions complémentaires. Une, c'est en quoi ce qui se produit justement dans le système interplanétaire, enfin dans le milieu interplanétaire ou dans le milieu interstellaire, influe ou peut apporter des éléments pour l'apparition de la vie sur Terre, alors l'émergence de la vie sur Terre. La deuxième chose, c'est on sait que sur la Terre, les traces primitives de la vie ont disparu en raison de ce qu'on appelle la tectonique des plaques, hein, qui fait que tous les 200 millions d'années à peu près, la surface est remise à zéro. Et donc, on pense qu'en explorant Mars, entre autres, en explorant des réacteurs chimiques comme Titan ou éventuellement Europa ou Encelade, on va être capable de trouver des pièces du puzzle qui nous amèneront à mieux cerner comment la vie a pu émerger sur Terre et quelles sont les premières réactions chimiques qui sont produites. Donc ça, ce sont des arguments qui sont suffisants, je dirais, en eux-mêmes, pour justifier que ces recherches se fassent, qui, dans le monde total de la recherche, sont quand même pas si importantes que ça. Bien sûr, on parle de millions d'euros. Mais ces millions d'euros, ils remplissent leur fonction, ils apportent des connaissances nouvelles, ils répondent pas forcément à la grande question, mais c'est ce que j'appelle la science du quotidien, c'est cette science qui, un jour, amènera, ou non, à une percée scientifique, un breakthrough en anglais, la découverte, la trouvaille, le modèle, qui nous expliquera un grand nombre de choses sur nos origines et sur la possibilité que des choses semblables puissent ou non s'être reproduites ailleurs.
C'est à court terme, moyen terme, long terme?
On travaille forcément à long terme. Alors, le problème, c'est que c'est la recherche qui se fonde sur l'observation ou l'exploration. Quand on fait une exploration, on a le droit, on a le devoir à un moment donné d'être surpris. Tant qu'on ne trouve rien, je ne peux pas chercher une botte dans une aiguille de foin. On commence la botte, on peut tomber tout de suite sur l'aiguille. Hein. On ne peut pas en prédire que ça ne va pas durer jusqu'à la fin. Donc jusqu'à la dernière brindille bouger. Donc voilà, on est quand même dans une science qui a beaucoup d'interactions avec la chimie terrestre, la géologie terrestre, qui génère elle-même des activités, des découvertes qui, un jour ou l'autre, ont des applications qui alimentent de nouvelles pensées plus applicatives. On ne fait pas ça pour ça, bien sûr, mais cette science-là qui est de haut niveau, qui est faite avec des scientifiques tout à fait impliqués dans leur monde et dans le monde scientifique en général, et qui attire à la fois les jeunes, les idées, les industriels, fait que cette science diffuse relativement bien. Et les produits qui sont issus de ces sciences, quand je parle produits, je dirais les instruments, les capteurs, les logiciels, etc., se répandent et animent aussi d'autres milieux scientifiques.
Mais dans ce domaine, rassurez-moi, vous avez déjà été surpris, émerveillé, ou pas encore? C'est l'histoire de votre vie, vous êtes toujours en attente?
Non. Regardons là. Alors, il y a des moments d'émotion intense. Il y a des moments, par exemple, quand j'étais petit, j'ai travaillé sur le problème de la fécondation, au sens biologique du terme, dans l'espace. Et donc, on avait en 1996 envoyé à Claudie André des œufs de salamandre, de pleurodèle, et des pleurodèles pour les ponts d'ailleurs. Et lorsqu'on a observé la première division d'un œuf, d'une cellule qui est devenue deux cellules, eh bien, ça a été un moment de joie intense pour tout le monde, parce que c'était à la fois une réussite, c'était une première, c'était une réussite technique à laquelle on était vraiment impliqué, et c'était le couronnement de 5 ans de travail acharné pour une cinquantaine ou une soixantaine de personnes. Et le plaisir et la joie des gens est communicatif. Et, je veux dire, c'est un terme que je n'aime pas trop parce qu'il est très connoté religieusement, mais c'est un moment de communion. Au sens où il y a une communauté qui, à un moment donné, ressent la même chose. Et par l'ensemble de la gestuelle et de la présence, c'est des choses qui se ressent et qui s'auto-catalysent et qui s'amplifient sans devenir au niveau des fans de football. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est des joies intenses. Les autres moments, c'est l'atterrissage de Huygens sur Titan, qui était quand même un moment intense, auquel moi je ne participais pas en tant qu'effecteur, j'étais vraiment observateur. Et puis, bon, l'atterrissage de Philae, hein, c'est quand même, même s'il a été un petit peu chaotique, il est en soi spectaculaire. Et c'est des moments où on se sent, voilà, des moments de communion humaine extrêmement importants. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais disons que les plus gros dans ce domaine-là, c'était ceux-là.
Ma dernière question. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue à la rencontre du public ?
C'est un exercice très, très intéressant. Moi, je trouve que c'est à la fois c'est ludique, ça donne des interfaces intéressantes avec des personnes que je rencontre quand même dans ma vie courante. Hein. Je ne passe pas ma vie qu'au milieu des scientifiques. Je vais au supermarché et quand les gens me reconnaissent parce que je suis passé à une émission de télé à côté, ils viennent de me demander des nouvelles, non pas de moi, mais de Philae, du petit robot, de Mars, etc. Et c'est très intéressant de voir cet intérêt, je dirais, en pointillé des gens pour le domaine spatial, le domaine de l'exploration et d'une façon plus générale pour le domaine de la science et de la technique.
Merci.
Avec plaisir.
Merci à Michel Vizeau, responsable du programme Exobiologie au CNES. Et merci à
Jean-François,
Christine,
Simon,
Bérat,
Françoise,
Brigitte,
Catherine,
pour leur libre participation à ce reportage réalisé avec la complicité de Daniel Wörling, président de la Société d'astronomie de Nantes.
C'est d'abord l'œuf ou la poule pour vous ?
Ben, c'est d'abord la poule, quoi, parce que la poule a pondu l'œuf, mais on l'a pas vu en tous les cas, la poule. Hein.
Et l'œuf va créer une poule.
On est dans...
Ou alors une omelette, enfin on va voir.
On va pas vous laisser dans l'ignorance.
Oui.
Alors, j'explique que pour moi, l'œuf est toujours antérieur à l'être qui peut le pondre. Et c'est le principe de l'évolution. Donc l'œuf, c'est le résultat de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Donc deux cellules haploïdes, donc qui n'ont que la moitié du patrimoine génétique. Et l'œuf, c'est la première cellule qui va donner l'individu, qui porte les deux patrimoines génétiques, qui fusionnent pour donner un individu avec ses singularités. En termes d'évolution, ça veut dire donc que la poule, donc dès l'instant où on parle de reproduction sexuée, donc avec des cellules haploïdes, hein, et pas par coupure comme les bactéries qui se multiplient les unes par les autres, mais dès l'instant où on parle de ça, donc l'œuf, en termes biologiques, a toujours précédé la poule qui va pondre un œuf suivant et qui sera différent de l'autre. Et notamment, il y a des œufs qui n'ont pas de coquille, comme par exemple les œufs des batraciens, qui sont typiquement avec du vitellus autour, etc. Et puis, au cours de l'évolution, pour une mutation qui provoquait l'apparition d'une coquille autour, puisque pour nous, dans notre esprit général, l'œuf, c'est avec une coquille autour quand même, même en biologie, c'est pas vrai, mais c'est comme ça. Et donc, l'œuf, l'animal qui a sécrété la coquille, le premier animal qui a sécrété un œuf avec une coquille, provient d'un œuf qui n'avait pas de coquille. Et c'est la mutation qui a fait qu'il a fait sécréter cette coquille. Donc l'œuf a forcément précédé la poule qui continue à pondre des œufs avec des coquilles.
Et avant l'œuf ?
Avant l'œuf, on avait la parthénogenèse, on avait la capacité d'autofécondation d'un animal par lui-même et qui donne un nouvel, comme certains escargots peuvent le faire. Et puis la reproduction par scissiparité, hein, donc de la plupart des organismes, des micro-organismes, qui soient des bactéries, donc très extrêmement simples, ou des micro-organismes plus évolués avec un noyau. Et donc c'est leur capacité à se multiplier en se coupant simplement en deux, en dehors, sans avoir... L'œuf, c'est pas simplement de la reproduction sexuelle, c'est le fait que l'individu qui se reproduit n'est pas capable de se nourrir immédiatement après l'apparition des premières cellules. Et donc, il a une réserve qu'on appelle le vitellus. Et c'est pour ça qu'un œuf, en fait, c'est tout à fait bizarre parce que c'est un truc informe. Et à la fin, ça fait un truc avec une forme, mais il n'y a rien qui est rentré. Il y a un petit peu de gaz qui est rentré, mais il n'y a rien qui est rentré. Ce qu'il faut dire. Donc ça, c'est la grande particularité de l'œuf, c'est qu'il vit avec le vitellus qui l'entoure. Et il y a un endroit, il y a un moment qui est... En fait, il n'y a pas de naissance dans l'œuf, si ce n'est le premier repas. C'est-à-dire le moment où les choses ne suffisent plus pour qu'on est obligé, enfin l'individu, pour vivre, est obligé d'avoir un apport extérieur. Donc chez la poule, normalement, c'est quasiment spontané. Bien sûr, chez les mammifères, qui dépendent de leur mère, donc ils pompent la substance de leur mère, eh bien, voilà, donc c'est la coupure, l'essence, c'est la coupure du cordon ombilical au moment où eux aussi doivent faire leur premier repas. Donc la vraie naissance, c'est le premier repas.